France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20. Depuis 62 ans, les Cubains n'ont connu que des Castro au pouvoir. Deux frères, après Fidel, c'est Raoul, 89 ans, qui s'apprête à céder son poste de premier secrétaire du Parti unique. Son départ sera acté lors du congrès du PC qui s'ouvre aujourd'hui. Un moment historique pour le pays qui traverse l'une de ses pires crises économiques avec de très graves pénuries alimentaires. Bonjour Jeannette Abel.
Bonjour.
Vous êtes politologue à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Le départ de Raúl Castro, est-ce que ça marque un vrai tournant? Est-ce que c'est la fin du castrisme?
Premièrement, ça marque un vrai tournant. Et ce congrès est un congrès extrêmement important, un des plus importants. Et ça ne marque pas pour l'instant la fin du castrisme, mais par contre, ça marque une évolution très radicale dans la politique économique et dans la situation économique sociale du pays. On est dans une transition générationnelle, mais aussi donc économique et sociale.
Et l'homme qui va lui succéder, c'est Miguel Díaz-Canel. Qui est-il, lui? C'est quelqu'un du Sérail?
Oui, c'est quelqu'un du Sérail. Oui, c'est quelqu'un de l'appareil du Parti communiste cubain, oui. Et qui a été, qui a fait consensus au sein de la direction du Parti communiste cubain.
Mais il va quand même apporter du changement, vous pensez ?
Ah oui, il a déjà apporté du changement. Un des changements très importants qu'il a apporté concerne Internet. Le pays était presque très peu connecté jusqu'à 2-3 ans et c'est lui qui a impulsé justement le fait que ces connexions maintenant parviennent à la population, et ça c'est un changement majeur, notamment pour les jeunes générations. C'est un changement du point de vue de leur accès à l'information, c'est un changement du point de vue de leur perception aussi de la crise du pays. Ça permet des échanges qui sont des échanges beaucoup plus importants qu'auparavant et beaucoup plus critiques aussi, notamment chez les jeunes.
Justement, c'est ce que j'allais vous demander, l'état d'esprit de la population vis-à-vis de ce régime. Il y a un envie de changement réel ou ça fait peur aussi, ce changement?
Ah, ça, le changement fait peur, mais il y a besoin de changement. Il y a les deux choses. Alors, ça dépend des catégories de la population auxquelles on fait allusion. Pour certaines catégories de la population, le changement fait peur. Le changement fait peur parce que ce changement introduit beaucoup d'inégalités sociales. Toutes les réformes économiques qui sont aujourd'hui en marche et qui ont été inscrites dans la Constitution, la nouvelle Constitution de 2019, sont des changements qui se traduisent pour certaines couches populaires, par une détérioration, une baisse de leur pouvoir d'achat, plus de pauvreté et plus de misère. Mais pour chez les jeunes, et puis dans le secteur privé, parce que maintenant il y a un secteur privé qui se développe, il y a une inspiration au changement, et cette inspiration au changement, au contraire, elle est, elle, très désirée. Donc c'est une population, c'est une société plurielle maintenant, c'est une société beaucoup plus hétérogène qu'auparavant, et c'est ce qui explique la difficulté de la situation pour l'appareil politique du parti.
Une société qui souffre en ce moment, qui souffre énormément. Il y a une crise économique très grave. Le PIB de Cuba a chuté de 11% l'an dernier et il y a d'énormes pénuries. Le pays avait déjà connu une telle situation?
La seule fois où une situation comparable s'est produite, c'est au moment de l'effondrement de l'Union soviétique. Donc, dans les premières années de 90, qui ont suivi l'implosion de l'URSS, la crise a été terrible. Et elle avait été surmontée progressivement par un certain nombre de mesures économiques impulsées à l'époque par Fidel Castro, plus tard aussi par les liens qui ont été établis avec le Venezuela, de Hugo Chavez. Mais actuellement, la crise, mise à part cette période, le pays n'a jamais connu une telle gravité.
Je voudrais évoquer avec vous les pénuries. On manque de tout aujourd'hui à Cuba.
Écoutez, on manque de tout, c'est ce que j'étais en train de vous dire. On manque d'une part sur le plan alimentaire, la distribution, la répartition du peu de choses qui arrivent et qui étaient importées reste très difficile par manque de transport, par exemple. Et le manque de transport lui-même est dû au fait que le pétrole qui arrivait à des prix très intéressants et dans des conditions très favorables du Venezuela, il y a maintenant, manque. Donc les transports sont difficiles. L'agriculture, qui est dépendante notamment pour l'alimentation de la Havane, est aussi très compliquée. Donc les difficultés d'approvisionnement sont considérables, l'électricité également, dont les prix ont beaucoup augmenté avec l'unification monétaire et l'unification des taux de change qui est intervenue au mois de janvier de cette année, le réseau d'eau, enfin l'approvisionnement en eau et les canalisations sont en mauvais état. Tout ça est lié en premier lieu à l'effet, il y a bien sûr la pandémie, puis l'effet des sanctions qui ont été mises en œuvre par notamment le président Trump et qui sont des sanctions absolument terribles, qui se sont combinées aux réformes économiques, au début des réformes économiques qui sont actuellement appliquées, et tout ça crée énormément de tensions. Si vous ajoutez à cela des difficultés qui sont celles du continent, du sous-continent latino-américain et du Venezuela en premier lieu, du Brésil en deuxième lieu, eh bien vous avez un tableau qui est un tableau très difficile.
Malgré tout de même, il nous reste quelques secondes, j'aimerais qu'on aborde ce dernier sujet. Malgré ce tableau noir qu'on vient de décrire, Cuba a visiblement encore de la ressource puisque le pays arrive à développer des vaccins anti-Covid ou est en train de les développer.
Oui, tout à fait, ils sont en train de développer. Il y en a 5 qui sont en développement, mais il y en a 2 qui sont en phase 3. Le premier qui s'appelle Souverain 2, je traduis en français, le deuxième qui s'appelle Abdallah, qui sont absolument en cours et notamment expérimentés en Iran, mais aussi à Cuba, qui vont l'être au Venezuela, et dont les premiers effets, enfin les premières analyses semblent très positives. Et pour le gouvernement, ce serait une ressource économique et financière très importante.
Et Cuba pourrait être le premier pays d'Amérique latine à produire son propre vaccin anti-Covid. Merci beaucoup, Jeannette Abel, politologue à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Et désolée pour cette liaison technique quelque peu défaillante. Vous étiez l'invité du 5-7.
France Inter.